maintenant, j'appelle Stéphane Troicaré pour cette dernière présentation. Donc Stéphane est enseignant-chercheur à l'École supérieure d'art de Rouen, c'est ça ?
Le Havre-Rouen.
Et qui va nous parler la joie de déplaire, le plaisir de décevoir.
L'idée la suivante, c'est que d'abord, je ne vais pas faire d'exposé universitaire parce que je ne sais pas le faire. Et donc, je vais vous faire un déroulé chaotique d'un certain nombre d'idées. Donc, c'est une esquisse d'une explication sur le mouvement punk et les artistes. C'est-à-dire que le mouvement punk a une certaine spécificité, c'est que les artistes s'en sont tout de suite emparés. Tant et si bien, c'est que dans un ouvrage, je crois que c'est un ouvrage de Andrew Goodwin, peut-être, ou c'est Art into the Pop, dans cet ouvrage que je cite mais que je ne montre pas, il y a tout un détail qui explique que dans les écoles d'art britanniques, on récupérait tous les gens dont on ne voulait pas, et ce qui permettait d'avoir une certaine liberté, ce qui existe toujours dans les écoles d'art, c'est-à-dire qu'en réalité, on est sur un savoir expérimental et on peut s'ouvrir sur un certain nombre de choses, notamment la possibilité de la musique. Il faut penser que, par exemple, le designer, alors ça c'était avant, mais en Angleterre, mais le designer de Pink Floyd, Hypnosis, Storm Sorgerson, enseignait à UCA, University for Creative Art, pendant que enseignait le dessin. Yann Durie enseignait le dessin. Alors là, on peut voir en première page, ce n'est pas un Anglais, c'est un Allemand, c'est Martin Kippenberger qui est né en 1953 et qui est un artiste d'art contemporain. C'est-à-dire qu'il est vraiment connu dans le champ de l'art contemporain, et beaucoup moins dans le rock'n'roll, etc. Mais néanmoins, il avait hérité dans les années 72 d'une petite fortune et il s'est lancé dans des activités culturelles. Il a dépensé son fric en 4 ans dans des bars qui faisaient du rock, qui accueillaient des artistes, il faisait des performances, il travaillait avec différents artistes qu'on peut connaître. Hein. Il était étudiant de Beuys, je sais pas, vous connaissez Beuys. Hein. Et donc, on était bien dans cette époque où il y avait des consciences politiques, mais aussi il y avait la nécessité d'agir vite et rapidement. Tout à l'heure, on évoquait, par exemple, la question du nazisme. Kiefer, par exemple, faisait le salut nazi dans ses verdissages pour faire de la provoque, etc. Et il ne se privait pas de choquer les gens. Tant et si bien, c'est qu'une chose qui choquait le plus dans son bar, c'était lorsqu'il a augmenté le prix de ses bières. Et il y a un certain nombre de skinheads qui se l'ont pris à partie et qui ont cassé la gueule assez sévèrement. Et tout de suite, il a publié ses photos dans un catalogue avec « Dialogue avec la jeunesse ». Voilà, « Dialogue mit der Jugend ». Je trouve que c'est assez délicat, c'est une façon de réagir qui me fait penser d'ailleurs à d'autres réactions qu'on verra tout à l'heure avec Kiki Picasso et le groupe Bazooka, dans lequel la provocation est toujours l'objet d'une dynamique créative. Donc, j'ai fait pour celles et ceux qui voudront, j'ai fait un petit fanzine à l'occasion de ça. Alors, hop, comment ça marche ? Il faut avoir plusieurs mains pour faire fonctionner ces machines. Ah oui, c'est vrai qu'en plus, il y a un mode page. Voilà, le mode page. Bon. Donc, moi, je me suis amusé, j'ai réfléchi, et puis, en fin de compte, ma conférence, c'est le fanzine qui se déroule, parce qu'il fallait bien que je respecte le fond et la forme. Donc, je m'en sortais pas, ça, je pouvais pas vous faire un déroulé logique, avec des références et tout ça, c'est le fatras dans ma tête. Et donc, ce qui se passe, c'est que je me suis aperçu, quand un malade mental casse tout à l'hôpital, on dit que c'est une crise clastique. Une crise clastique, c'est une destruction. Et ça me permet de dire que le punk, finalement, est peut-être un art clastique, ce qui est un excellent jeu de mots, vous me le pardonnerez. Et donc, là-dedans, pour respecter encore la façon de travailler, je me suis dit que le seul moyen, c'était de faire un mapping que j'aurais pu vous faire à la main. Là, j'aurais pu une grande feuille, et puis je vous aurais dessiné ça ici et maintenant. Hein. C'est vraiment ça, l'esprit du punk. Et donc, la destruction créatrice, c'est pas Schumpeter, mais néanmoins, on détruit pour remonter des choses, on expérimente, on a des grandes libertés, parce qu'on n'est pas contraint par des esthétiques formelles des esthétiques formelles, comme il ne faut pas oublier qu'à l'époque, en 70, il y avait l'art conceptuel, et l'art conceptuel était particulièrement ennuyeux. De surcroît, dans les écoles d'art, par exemple, il y avait des cours de support surface ou des choses comme ça qui étaient extrêmement lourds, dans lesquels, si on sortait de la doctrine, on était foutu. Donc le do it yourself provoquait une nouvelle dynamique. Donc le cynisme et l'honnêteté, l'humour constamment. Il y avait des prédécesseurs, Fluxus et Dada. Hier, nous avons une conversation à table autour de Grell Marcus, qui a été relativement contestée par certains de nos camarades. Mais néanmoins, dans les écrits de Grell Marcus, il y a un certain nombre de choses que je retrouve qui sont liées à ces dynamiques-là. Mais il y a une autre chose, d'ailleurs, qui m'est apparue à l'esprit. C'est peut-être ma conclusion, mais bon, que je vous ai dit que c'était le fatra. C'est-à-dire que je me suis aperçu, pour avoir vécu une partie de cette histoire, c'est que c'était le dernier mouvement international. C'est-à-dire, enfin, le dernier mouvement moderne, je veux dire. Le dernier mouvement moderne, parce que je décrirais un mouvement moderne toujours lié à une revue, à des bars ou des lieux où les gens se rencontrent, quelques personnalités. Il n'y avait que le téléphone et la poste à l'époque. Il fallait se déplacer. Il n'y avait pas d'Internet. Et tout ça, ça va exploser dans les années 90 avec Internet. Et à ce moment-là, on sera dans un nouveau contexte qui vient d'être décrit tout à l'heure. Donc, do it yourself, l'opposition avec le truc de Bab, mais on pourrait aussi évoquer une opposition avec les grosses productions de rock'n'roll de l'époque. Hein. C'est pas Paul McCartney, c'est Paul McCartney. Hein. Paul McCartney, c'est un artiste américain qui est très bien, qui a fait une vidéo formidable sur le peintre dans les années 80, un personnage grotesque, avec un gros nez, alors on n'a pas peur du grotesque, on choque, là encore, on choque le peintre, et on va voir ça avec Kippenberger un peu plus loin. Et il y a une autre chose qui est très intéressante, c'est que la peinture s'observe comme on écoute un groupe de rock. Alors ça, c'est encore un autre truc que j'ai revécu à travers un groupe que j'avais créé qui s'appelait Frères Époulin, mais dont je ne parlerai pas aujourd'hui, dans lequel, en fin de compte, on avait des attitudes de rocker, mais tout en faisant de la peinture. C'est-à-dire c'est un oxymore, et ça rendait les choses impossibles. Il y a toujours, dans le mouvement punk, j'ai l'impression, quelque chose qui n'est pas soluble. Comme ça. Il y a quelque chose comme ça, qui sorte de chemin asymptotique, à la recherche de quelque chose qu'on n'arrive pas à attraper. Et donc, il y a quelques artistes, Bazookat, Kippenberger, Immendorf, dont je ne parle pas, mais c'est très intéressant. C'est tout ça, c'est la scène berlinoise. Kippenberger et Immendorf. Clastique, en géologie, se dit qu'il présente des traces d'usure et d'érosion. Je trouve que c'est assez beau donner une image à tous ces fanzines, à toutes ces musiques qui sont des musiques d'usure et d'érosion. Et action de tout briser, psychiatrique, sujet qui devient volant, destroy. Est-ce que c'est une exigence éthique? Est-ce que c'est une posture esthétique? Est-ce que c'est un style de rupture? Est-ce que finalement c'est un mouvement vital? Là encore, moi, j'ai eu l'impression sur cette histoire-là que c'était absolument nécessaire. C'est-à-dire qu'à un moment, ça procurait un oxygène intellectuel, l'oxygène esthétique, et ça permettait de changer les choses, sachant que, ça je l'évoquais tout à l'heure à table, mais par exemple, quand on était aux arts décoratifs dans les années 80, nos professeurs, c'était d'anciens militants communistes qui avaient été déportés. Donc ces garçons-là, Boris Staslitsky, Ottaviano, qui étaient des types formidables, mais ils étaient incapables de comprendre ce qui se passait sur cette époque-là. Et de surcroît, ils étaient aussi incapables de nous parler et d'échanger sur la question qui les avait consumés lors de leur jeunesse. C'était deux jeunesses qui n'avaient rien à voir. Waouh ! Un truc, c'est un mystère, ça reste un mystère pour moi. Donc, c'est intéressant toujours cette perspective historique des échanges comme ça. Donc, je citais Art in Sous the Pop. On voit une photo de Yann Dury, comme ça. Bon, c'est votre prof de dessin, un homme très bien, bon musicien. Et la suite. Voilà. Donc, quand j'ai découvert Kippenberger, quand j'étais jeune homme, c'était très étrange parce que ça fonctionnait bien, il avait un peu d'argent, mais il était toujours éructant. Alors c'était un vrai bordel. Et il avait fait une installation qui m'avait vraiment absolument époustouflé à l'époque. J'étais encore un peintre sérieux. Et donc, je considère qu'une peinture, c'est une peinture, c'est un travail. C'est très difficile de casser son travail, de tout foutre à la poubelle. Et là, il avait fait une série d'expositions, une grande, grande exposition. Il y avait des peintures partout. Et au bout de l'exposition, c'était dans un tunnel, dans un couloir. Et il y avait une partie des peintures qui avait été mise à la poubelle. Vous remarquez que ce n'est pas n'importe quelle benne, il a refait la benne, hein, il l'a fait, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment une mise en scène, et les peintures, c'était des peintures néo-réalistes, très efficaces, hein, qui pouvaient être très très belles, et tout ça, c'était parti à la poubelle. Très très fort, un acte classique, on modifie tout pour pouvoir renouveler les choses. Malheureusement, cet homme-là est mort en 97, d'un cancer du foie, assez rapidement, et c'était vraiment très triste. J'illustre cette page-là, non seulement d'une page sur Crass, qui, à mon avis, sont quand même un groupe absolument essentiel, qui va politiser les choses. Si vous voulez, la posture politique de Kippenberger, d'Immendorf et tout ça, est extrêmement plus ambiguë, d'une certaine façon. Ce n'est pas aussi affiché que Crass, The Gang of Four ou d'autres groupes qui sont vraiment des groupes militants et avec des postures très claires. Là aussi, les ambiguïtés de l'art contemporain emportent les choses et peuvent provoquer des paradoxes qu'on va avoir à la fin. Et je cite Johnny Rotten, qui est quand même une référence, et ce qu'il dit, les punks veulent tenir le cliché et une uniformité de ce que je suis, que je ne mérite pas. Moi, je veux faire des nouvelles choses qui sont dans mon esprit. Ce qui est le punk, c'est faites-le vous-même. Soyez franc avec vous-même. Ce qui me paraît absolument essentiel. On va revenir pour finalement, on dirait, c'est une ontologie forte. Comment fonctionne cet esprit créatif. Alors, voilà. C'est un autoportrait de Kippenberger. Avec différentes installations, différents titres de ces installations. Petit peintre, peins-moi, c'est-à-dire qu'il demandait à d'autres peintres de le peindre, de faire ses portraits. Magical Mystery Tour, qui est une référence au rock'n'roll. Et Martin Bormann Gas Station, il a acheté à un moment une station-service. Et dans cette station-service, il l'a attribué à Martin Bormann. Donc ça avait fait tout un Martin Bormann, qui était un nazi très important. Et donc, ça avait fait un énorme scandale parce qu'il avait mis un téléphone au nom de Martin Bormann. À l'époque, c'était encore une mauvaise plaisanterie. Mais on voit que les mauvaises plaisanteries, elles sont fortes, elles disent bien des choses. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, il y avait du terrorisme d'extrême gauche en Allemagne, pour la bonne raison que l'histoire de l'Allemagne n'était pas résolue dans cette époque-là. Elle n'était toujours pas résolue, d'ailleurs. Alors, voilà. Alors, ici, nous sommes Luke Rathmill, qui est vraiment un groupe d'artistes, avec Nina Childress, qui est peintre, et qui après a fait partie des groupes d'Éric Poulain, et Masto, LOL. Et voilà, quand je les ai découverts, c'était à la Biennale de Paris. Il faut savoir qu'à Paris, il y avait une biennale qui était absolument formidable et très, très ouverte à cette époque-là, et dans laquelle il y avait un répertoire, une multiplicité de propositions qui étaient autant pour les arts numériques, parce que ça existait déjà, mais aussi pour les arts plastiques et pour la musique. Ils invitaient plein des répertoires extrêmement divers. Ça avait lieu au Palais de Tokyo. Ils ont joué en première de Einstürzen 2 de Batten. Alors, c'est une citation d'Andrew Tetzlaff. C'est-à-dire que les punks, on a vu la diversité des propositions hein, entre Alien Nation, les queers, etc. On s'aperçoit que, finalement, il y a d'énormes possibilités en termes d'écriture. Parce qu'on n'a pas parlé de New Wave ou de gens comme Fat Gadget, etc., ou de Flying Lizards, qui, eux, vont, issus du punk, vont fabriquer des groupes d'artistes avec des postures esthétiques extrêmement plus radicales. Et je voudrais citer un texte de David Tetzlaff sur Fatal Distraction, MTV rencontre le postmodernisme, parce que j'aimerais bien mettre aussi ça dans le cadre du postmodernisme. C'est quand même absolument essentiel, parce que c'est un symptôme de culture. Donc on parle de fragmentation, de segmentation, de superficialité stylistique, de saut stylistique, de flou entre la médiation, de médiation entre la réalité et de l'effondrement du passé et du futur dans le présent. Et l'élévation dans l'hédonisme, ça pourrait être aussi un symptôme de l'époque, et la dominance du visuel sur le verbal. Donc il faut faire des images efficaces. Voilà. Alors, parmi les images efficaces, il y a mes amis Bazooka, là, avec Kiki Picasso. Et donc, en 1976, aux Beaux-Arts de Paris, un groupe de peintres, d'artistes, de très jeunes artistes, Lulu Larsen, Kiki Picasso, Loulou Picasso, Bernard Vidal, Tissing Dur, qui est rouennais, et Olivia Clavel, se réunissent de façon, je dirais, presque opportuniste, d'une certaine manière. Ils sont heureux d'être ensemble, mais en même temps, il y a des circulations, il y a des difficultés, ils sont différents, mais en même temps, ils se retrouvent. Et ça, c'est assez étonnant, parce qu'ils n'ont pas déclaré « on va faire un groupe ». Il y a une agrégation. Et donc, certains dessins de l'époque de Bazooka, dit Loulou, sont signés Tissing Absorption, et rarement Tissing suivant de son prénom. Le plus souvent, d'ailleurs, les dessins de Tissing ne sont pas signés. Il s'appelle Philippe Bailly, on l'appelle Philippe. Il est né en 1957, il rencontre les Bazooka en 1976. Olivia disait, on était jeunes, on était pauvres, on n'habitait pas tous au même endroit. Ils se sont rencontrés aux Beaux-Arts en 1973. Ils réalisent un premier journal, Loukoum Breton, puis un second, Bazooka. L'appellation Bazooka, complétée ou non par production, signera les travaux du groupe. Olivia dit, je n'ai jamais porté de robe, j'étais baba, mais en jeans et gibus, et pourtant c'est elle qui poussa à adopter un certain folklore punk. On n'était pas punk, dit Loulou, mais on s'est immédiatement reconnu dans le mouvement punk. Kiki dit, le no-future des punks n'était pas notre perception du monde. Nous étions plutôt animés par la volonté de production, par la recherche de prise de pouvoir qui s'oppose totalement à l'idée d'apolitisme du punk. Loulou dit, j'ai rencontré Olivia, elle m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit que je pensais apprendre à dessiner des BD. Elle m'a répondu, ça s'apprend pas, petit con. Les autres dessinaient dans une logique ultra-gauchiste où tous les dessins devaient avoir un sens et aider les masses. Ils me faisaient chier avec leur discours gauchiste. Je préférais faire un travail alimentaire avec Romain Slocum, dit Kiki. Loulou dit, mes images sont le constat d'un état de sensation à un moment donné. Je ne pense pas peindre un univers triste ou sinistre. Effectivement, ce ne sont pas des dessins dans lesquels on se marre. Ce sont mes empreintes et je pense qu'elles peuvent être des empreintes pour d'autres personnes. Olivia dit, on leur a jeté des croix nazies à la tête, tout pour les faire chier. On aurait été chez les fachos, on aurait fait le contraire. Nanar dit, quand je fais des images, je réfléchis à chaque détail. Tissing, c'est souvent des erreurs de lecture qui stimulent mon imagination. Je crois voir des mouettes et je m'aperçois finalement que ce sont des régates. J'étais longtemps convaincu que le bouquet de roses que tenait Jacqueline Kennedy sur la photo de l'assassinat de son mari était des tripes qui sortaient de son corps. Il a fallu qu'on me montre un agrandissement pour que je me rende compte que c'était des fleurs. Vous voyez, toujours un humour absolument terrible. Alors, le journal Un regard moderne, c'était un événement dessiné chaque jour. Pour boucler le premier numéro, j'avais travaillé 48 heures d'affilée. Après, je me suis endormi. Les autres m'ont réveillé avec le journal imprimé. C'était super. Le regard moderne, c'est un encart qui était dans Libération. Et donc, il faisait des choses qui étaient tellement drôles que, par exemple, voilà, Kiki avait mis ça dans Un regard moderne. Si votre enfant est gay, c'est qu'il est communiste. Comme ça. Et naturellement, à l'époque, c'était mal reçu, mal interprété. C'était politiquement pas correct. Il ne plaisait à personne, et d'ailleurs, ça se terminait par des événements classiques. Hein. Il y avait Kiki et Loulou prenaient souvent la colère des autres sur le dos. Kiki dit « Je vivais l'action artistique comme une aventure ». Et Kiki dit enfin, je veux imposer ma dictature graphique. Réplique de Georges Lacroix, moi aussi je suis un dictateur graphique. Georges Lacroix, c'était le graphiste du journal Libération. Alors, il va y avoir... voilà, j'ai commencé à faire la liste, je me suis arrêté très vite, parce que je suis une feignasse. Et donc, j'ai fait la liste des punks d'école d'art. On voit que Viv Alberti, Nina Childress, Ian Dury, Jamie Reid, Devo, c'est fabriqué, David Byrne, Penny Rimbaud de Crass, Hugo Burnham de Gang of Four, Alan Vega, Colin Newman, Bruce Gilbert, Mike Jones de Clash. Donc, réellement, ça mériterait de faire une enquête, de pousser un travail beaucoup plus élaboré sur la question de qui a été en école d'art et pour quelles conséquences. Mais on va revenir à Art into the Pop, qui est un livre que je recommande énormément parce qu'il est vachement bien. Malheureusement, pas traduit en français. Alors là, j'ai mis deux images à gauche, à droite, de deux graphistes qui vont compter dans l'histoire du punk, Étienne Robial, qui est ensuite les humanoïdes associés, mais aussi il va faire la charte graphique de Canal+. Et à Canal+, d'ailleurs, quelques années après, il va imposer la dictature graphique, parce que lorsqu'on était sous la charte graphique d'Étienne Robial, pour l'avoir vécu, on ne pouvait pas faire ce que l'on voulait. C'était absolument terrible. C'était d'une précision millimétrique. Et Neville Brody, avec le journal Face, qui lui aussi va illustrer énormément de musiciens. Il va faire, il va vraiment compter. On voit le rôle de la typographie et de la mise en page. Ensuite, voilà. Alors, j'ai voulu. Moi, je comprenais rien au punk. Deux minutes. Super. Deux minutes. Donc, Burrus, le festin nu, écrit en 1959, « Les jeunes voyous du rock'n'roll chambardent les rues du monde entier. Ils envahissent le Louvre et vitriolent la Joconde. Ils ouvrent les grilles des eaux, des prisons et asiles d'aliénés. Ils crèvent les conduites d'eau aux marteaux pneumatiques et défoncent à la hache le plancher des toilettes dans les avions de ligne. Ils tirent à la cible sur les phares, liment les câbles d'ascenseur jusqu'au dernier torrent, etc. etc. » Vous pouvez avoir le fanzine tout à l'heure. Pour bien déplaire une autre génération, bien après, en Angleterre, toujours, d'une école d'art, ce n'est plus une punk, c'est Sophie Ricketts, c'est Young British Artist, qui fait comme certains punks se jouent à provoquer, et notamment on va reprendre les rituels des hommes qui urinent, et elle fait ça d'une autre façon. Alors, elle fait ça, comme ça, comme les mecs. Hop, une punk âgée, donc Vivienne Westwood, qui est toujours dans l'histoire de l'image performative, l'idée performative. Et enfin, ce que nous avons mérité récemment, c'est le punk façon rive gauche. C'est bien fait pour nous. On n'avait qu'à faire attention. Et on se pose la question, et ça je voudrais l'adosser, mais je ne suis pas universitaire, mais j'ai l'intuition que ça peut s'adosser à la critique du postmodernisme de Frederic Jameson. Parce que ça, réellement, c'est un non-sens. Mais c'est normal parce que le capitalisme a recyclé tout, même les scories. C'est-à-dire que peut-être que le moindre punk lamentable, un jour ou l'autre, il vaudra beaucoup d'argent parce qu'on en aura fait un récit correct. Sauf punk. Donc surtout, n'y allez pas, ça ne sert à rien. Et tout se vend, même la nullité. On continue. Finalement, je me pose la question anthropologique des punks, savoir cette révolte. Comme ça, pourquoi on va pousser les anciens, pourquoi on va pousser le malheureux Boris Tasliski, pourquoi on oublie Boris Tasliski, Ottaviano, ces mecs-là qui étaient des mecs bien et courageux, pourquoi on a besoin d'un peu d'air et pourquoi on demande à papa pourquoi il a collaboré. Et finalement, je me pose la question de savoir, comme nous sommes dans un nouveau paradigme, hein, tout à l'heure je vous ai expliqué que les punks comme Dada, comme les surréalistes dépendaient d'une ville, d'un bar, d'une revue, là nous sommes dans la globalisation, c'est-à-dire que maintenant il peut y avoir des punks à Shanghai, des punks en Australie, enfin ça c'est normal, l'Australie, mais des punks en Indonésie par exemple, je pense qu'on va en trouver. Et donc je me pose la question de savoir s'il y a la possibilité d'une anthropologie de la rébellion, ou de la transgression, de savoir qu'est-ce qui est en train de s'écrire à l'avenir autour de ça. Et je terminerai avec, en citant Diane Wurt, que j'aime beaucoup, et Little Big, qui sont en Russie, qui ont des attitudes qui sont compétentes par rapport aux critères punk, Diane Wurt, qui sont vraiment des gens formidables, hein, qui viennent d'une école d'art et qui fabriquent un univers qui est particulièrement étrange, je dirais presque malsain, mais qui est vraiment passionnant, parce qu'ils complètent beaucoup de choses. Et ils font ça en Afrique du Sud. Et je termine par un type qui est mort en 1994, trois ans avant Martin Kippenberger, un type qu'on aimait beaucoup, qui était Kurt Cobain, qui dit « la lumière s'éteint, c'est moins dangereux, Nous sommes là en train de s'amuser. Je me sens stupide et contagieux. Nous sommes ici maintenant en train de s'amuser. Je suis un mulâtre, un albinos, un mosquito, ma libido. Et voilà, et j'espère que je vous aurai déçu.
Merci Stéphane.